Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre quand les choses arrivent.
On écoute aujourd'hui l'histoire d'Anne de la Baume, une héritière qui a décidé de ne pas garder tout son argent pour elle, mais de le consacrer à un beau projet. On pourra, chemin faisant, s'interroger, par exemple, sur la notion de bienfaisance et ses petites sœurs, la chrétienne charité et la sincère générosité. On pourra d'un côté se dire que la bienfaisance est un devoir et penser, comme Kant, que c'est une maxime, un principe, disons, qui consiste à prendre le bonheur ou le bien-être d'autrui comme une fin et qu'il faut considérer ce principe comme universel. On pourra d'un autre côté songer à une version plus utilitariste. La bienfaisance, pour les anthropologues comme Marcel Mauss, n'est pas indépendante d'autres notions comme la gratitude et la reconnaissance. Il s'agit d'un échange dynamique qui implique celui qui reçoit, au même titre que celui qui donne, don et contre-don, comme on dit. Bref, de la matière à penser les fondements du bien, tout simplement, et éventuellement de l'économie, tout de suite, avec cette riche héritière que Rémi Dibowski-Douat a rencontrée dans son duplex du 11e arrondissement. Et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, le jardin suspendu et les œuvres d'art qui s'y trouvent, il y a un article de Point de vue et Images du Monde avec des photos, dans lequel elle explique « J'ai longtemps vécu dans le 7e arrondissement, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je m'y ennuyais. » À la grande surprise de mes amis, j'ai choisi de m'installer du côté du faubourg Saint-Antoine, bien plus vivant. On y va donc tout de suite dans les pieds sur terre.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Anne de la Baume, vous êtes chez moi. Personnellement, je trouve ça très beau. Chaque fois, j'ai un chat comme ça. Oh, quelle chance tu as, comme c'est beau chez toi. Je ne sais pas si vous trouverez ça beau, mais je vous fais visiter. Alors là, il y a d'abord la grande pièce qui est la pièce à vivre. J'invite des amis autour de cette table, j'adore recevoir. Je fais la cuisine là, mais en même temps à vue. Comme ça, je ne suis pas isolée de mes amis dans la cuisine. Là, on se tient au salon, c'est que j'ai des canapés très confortables parce qu'on s'écroule après les repas. Il y en a même qui s'endorment de temps en temps parce que j'aime bien le bon vin aussi. Il y a 7 ans que je vis ici, mais c'est le premier appartement qui est vraiment mon appartement. Avant, j'avais un mari, des enfants, donc on accommode pour tout le monde. Ici, c'est vraiment que moi. C'est-à-dire que les tableaux, les objets, ou je les ai choisis par coup de cœur, ou c'est des choses qui appartenaient à mon grand-père. Et les tableaux qui sont, par exemple, ce Kiesling là et l'autre là-bas, c'était des tableaux que je voyais chez eux quand j'étais enfant. Et donc, il nettoyait lui-même ses tableaux avec un plumeau. Et quand j'étais petite fille, je le suivais fascinée. J'étais fascinée parce que ma grand-mère achetait le calendrier des postes, comme toutes les familles françaises. Et sur le calendrier des postes, il y avait des tableaux, non pas les mêmes que ceux de mon grand-père, mais il y avait des Renoirs, il y avait des Utrillos, je voyais que c'était les mêmes tableaux que chez mon grand-père. Et j'étais fière parce que mon grand-père avait les tableaux des calendriers, pas le contraire. Ça, j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est toujours mon grand-père. Mon père était général et ministre, c'est-à-dire, enfin mon père génétique, hein, mon père naturel, parce que ma mère était résistante, donc elle était à Londres, donc je suis née à Londres, et à l'époque, donc mon père lui était marié en France, et à l'époque on ne pouvait pas reconnaître les enfants adultérins, donc il ne m'a pas reconnue, mais même pas reconnue, je suis assez ravie d'avoir un père qui est compagnon de la Libération, qui a été un ministre de Gaulle, qui a été général, enfin, ça me va. Ça, c'est Béatrice Cazatzuc. Ah ben, je vais vous montrer une chose d'elle. que j'adore. Je l'ai mise au plafond parce que c'était trop grand. Oui, on a 1, 2, 3, 4. Et j'ai mis au plafond parce que quand on n'a plus de place sur les murs, on met les tableaux au plafond. C'est très agréable d'avoir ça, mais demain je peux ne plus rien avoir. Je ne pense pas que ça me rendra malheureuse. Je suis aussi heureuse dans ce que je, là où je vis maintenant que si je vivais dans trois chambres de bonne. Je sais bien qu'en France, c'est honteux d'être riche, l'argent, quelle horreur, etc. Mais l'argent, c'est divin de pouvoir être généreux, justement, avec de l'argent. D'en dépenser en passant des vacances merveilleuses avec tout le monde, d'en faire profiter ses enfants quand ils en ont besoin, d'en faire... Mais ma mauvaise conscience d'être riche, non. Je sais pas, c'est que festif, l'argent. J'étais mariée très très jeune, à 17 ans. Ensuite, à 23 ans, j'avais déjà deux enfants. Et je voulais travailler parce que ça, je ne pouvais pas m'occuper que de mes enfants. Et donc, j'ai travaillé dans un théâtre avec un de mes cousins. Et ma mère, ça l'affolait parce qu'elle pensait que j'avais pas d'avenir là-dedans et que c'était le soir et qu'elle était inquiète pour moi. Donc, elle était allée voir un de ses amis, le président de Publicis, en lui demandant de me trouver un travail. Donc, elle est allée voir Marcel en lui disant, écoute, il faut que tu m'aides, il faut qu'elle ait un vrai job, il faut que tu la prennes comme vendeuse de parfums à Publicis, n'importe quoi, mais un vrai job. Alors, il m'avait demandé de venir le voir. Moi, j'y avais été pour avoir la paix avec ma mère. Et il me dit, mais vous n'aimez pas ce que vous faites? Je dis, si, j'adore. Alors, il me dit, mais alors, pourquoi vous voulez changer? Mais je dis, je veux pas changer, c'est ma mère qui veut que je change. Bon, il m'a dit, écoutez, j'ai une idée. Vous allez faire un stage de 2 mois à la Fondation de la Vocation. C'est une fondation qu'il avait créée pour aider les jeunes qui avaient une vocation à terminer la formation qui leur permettrait d'exercer le métier de leur choix. Et puis, dès que j'ai été là, j'ai trouvé ça tellement passionnant, mais tellement passionnant. Et donc, je me suis accrochée, je suis restée. Et puis, il a vu que j'étais tellement passionnée que quand les deux personnes qui s'en occupaient avant sont parties, il m'a dit, mais je vous la confie. Vous verrez, ça vous aura un peu peur au début, mais après, c'est tellement agréable de diriger d'une chose qu'on aime. Et ça a duré comme ça pendant 40 ans. Et je continue. Maintenant, je suis vice-présidente. Je m'en occupe un peu, mais plus autant qu'avant. Je ne vais pas au bureau tous les jours. Je prends mon temps dans ma salle de bain, c'est vachement agréable. C'est le seul intérêt de la retraite. Ça, c'est un Le Basque qui appartenait à mon grand-père aussi. Voilà, c'est encore un truc familial. J'ai appris à 50 ans un truc assez curieux quand même. Ma mère s'occupait toujours de ma première nanny, qui a vécu au-delà de 100 ans, qui était une nanny anglaise, et qu'elle continuait à pensionner et tout ça. Je lui disais, mais attends, c'est très bien, c'est généreux de ta part, mais comment se fait-il que tu sois aussi attachée à cette femme qui s'est très peu occupée de moi ? Elle me dit, oh, oui, mais dans des années importantes, pendant tes 2 premières années, elle avait la totale responsabilité de toi. Je lui dis, comment ça? Elle s'occupait de moi, mais tu étais là. Elle me dit non, parce que très peu de jours après ta naissance, je suis partie avec ton père en France, puisque je suis née en 44, donc il y avait la libération de Paris et tout ça. Je suis partie pour la France avec ton père et je t'ai laissée pendant 2 ans, parce qu'il fallait aussi que je rentre à Paris. Tu pouvais pas être avec moi, je t'ai laissée, puis il y avait les restrictions de tout en France, donc je t'ai laissée avec cette nanny anglaise 2 ans. Et je me suis dit, mais c'est... C'est épouvantable. Comment est-ce qu'une mère peut laisser son enfant de la naissance à 2 ans? Il y a quand même des changements énormes entre 0 et 2 ans. Et ça m'a choquée à 50 ans. Et je me dis, ça, cette espèce de truc, j'ai toujours peur d'être abandonnée ou d'être, je fais de la psy de bazar, là, mais bon. Cette espèce de truc où je veux quand même, et j'ai peur d'être abandonnée, ça vient probablement de là. J'ai jamais l'impression qu'on peut m'aimer spontanément. J'ai toujours l'impression qu'il faut que je fasse des efforts, que je sois généreuse. J'ai un excès de générosité pour qu'on m'aime. Ça, je sais, c'est un travers, mais bon, tant pis. Si je vais dans un restaurant, j'insiste pour moi offrir le déjeuner ou le dîner. J'achetais pas un pull en cachemire, mais deux. Je sais pas. Enfin, tout est trop gros. Par exemple, Robin Gary, j'avais pas beaucoup de moyens à ce moment-là. J'ai acheté des stylos Montblanc, ce qui était absurde. Surtout qu'il en avait déjà en plus. Robin Gary, dont je suis partie à la conquête, il se demandait qu'est-ce que c'était que cette folle qui lui écrivait des lettres. J'ai même déménagé pour être plus près de la rue du Bac et risquer de le croiser dans la rue. Et des cornichons, parce que j'avais entendu une émission à la radio où il disait qu'il adorait les cornichons russes. À l'époque, il n'y avait pas les codes sur toutes les portes cochères. Donc j'avais été déposer un gros bocal de cornichons russes pour lui plaire. Et donc... Alors effectivement, j'ai vu le rideau qui regardait, il est descendu, il m'a baisé la main, très ancien diplomate, très courtois, et puis on a été prendre un café, puis après on s'est plus quitté pendant 4 ans. Voilà. Ça c'est Ousmane Sow, que j'ai connu, que j'aimais beaucoup, et je voulais absolument lui acheter une œuvre, mais une petite, parce que c'est très cher, ça. Et en fait, enfin, les grandes étaient chères, mais je l'ai vu et je suis tombée amoureuse de celui-là. Et il riait, il disait, ben, si c'est celui-là que tu aimes, prends celui-là. L'histoire que je vais vous raconter, elle démarre quand j'avais 15 ans. C'est pas hier. Hein. J'étais avec une amie russe, qui est toujours ma meilleure amie, qui était la petite fille du prince Youssoupov qui avait tué Rasputin. Et on était allé voir des amis de sa grand-mère qui était dans une maison de retraite pour vieilles dames aristocratiques russes. Et elles étaient élégantes encore, elles étaient sympathiques et joyeuses, mais... Cette réunion dans le réfectoire, enfin dans la salle à manger, de toutes ces vieilles personnes en train de manger ensemble, ça avait un côté, je sais pas, c'était atroce. J'ai dit à mon amie, mais pourquoi on met pas des étudiants, des gens jeunes avec elle, enfin des gens... Et je me disais, c'est pas possible, c'est ghetto, enfin c'est un ghetto de personnes âgées, c'est trop triste, c'est trop horrible. Et je lui avais dit, tu sais, si un jour j'y arrive, ça me donne vraiment l'envie, et là je suis décidée à faire un jour une maison... où il y aurait à la fois des personnes âgées et des étudiants. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour, mais je le ferai. Quand vous baladez au Mexique, dans les villages, ou en Haute-Corse, ou même en Corse, bah, dès que vous êtes dans un village, d'où le nom Villa-Village, les anciens et les jeunes sont ensemble. Enfin, c'est spontané, ça s'organise spontanément. Sans règlement intérieur qui dit les jeunes doivent consacrer 2 heures par jour ou 3 heures par semaine aux personnes plus âgées. Parce que je pense sincèrement que si on met les gens en situation ensemble, ça se développe spontanément. Et donc, c'était dans un coin de ma tête, et j'y ai repensé quand j'ai eu les moyens de le faire, des années-lumière plus tard, à la mort de ma mère, malheureusement. Je me suis dit, là, bon, je viens d'hériter, c'est l'occasion rêvée. Donc je me suis dit, je vais vendre des tableaux de mon grand-père et de ma mère, pour avoir suffisamment d'argent pour faire un fonds de dotation qui pourra acheter un endroit, l'installer et tout ça pour mettre des personnes âgées et des étudiants. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai réuni 3 millions. Une fois que j'ai cet argent, je me mets à chercher. Alors, dans mon idée, parce que j'ai continué à y penser depuis très longtemps, je me disais, il faut que ça soit dans les centres-villes, pour que les étudiants soient pas trop loin de leur université, et pour que les personnes âgées puissent sortir, aller acheter le paquet de cigarettes qu'elles n'ont pas le droit de fumer, ou boire le verre de vin blanc aux terrasses des cafés qu'elles n'ont pas le droit de boire non plus. Que ça qu'ils soient dans la vie, dans la ville. Et donc, je me suis dit Paris ou le centre de Paris, puis de toute façon Paris, l'immobilier était déjà hors de prix. Et donc, je me suis dit, allons à Lille, parce que par commodité, c'est à 55 minutes de Paris, parce que j'y avais des amis, et parce que mon grand-père était lillois. Et je vois cet hôtel particulier qu'il fallait entièrement réaménager, mais qui était beau. Donc, je me dis, voilà, c'est l'endroit où je pourrais installer Villa-Village, parce que c'est beau, parce que c'est central, et parce que je vais pouvoir créer des logements beaux, 11 logements, et que le beau est souvent pas plus cher que le moche. Mais je destine ça à des jeunes et des personnes âgées qui n'ont pas les moyens de se loger aussi confortablement et même aussi même décemment souvent. Et ensuite, je me suis dit, mais on ne peut pas faire assez de logements là. Donc, j'ai contacté une architecte qui m'a fait un projet qui est magnifique de construction d'un bâtiment très contemporain, en tôle ondulée miroir, ce qui fait que le bâtiment ancien 17e se reflète dans la tôle miroir et que les deux se marient très bien. Et qu'en plus, ça reprend l'idée des personnes âgées, des étudiants, c'est l'ancien et le moderne. Je voulais que les gens soient ensemble mais indépendants. C'est-à-dire, je voulais que, même dans les colocations, que chacun ait sa propre salle de bain. Parce que je connais les trucs. Oui, t'es tout le temps alors, laisse-moi rentrer, je suis pressée, t'es tout le temps dans la douche, t'as pas enlevé les cheveux dans la douche, tu nettoies pas les chiottes, etc. Alors que si chacun... Ils ont des chambres plus ou moins grandes ou des studios plus ou moins grands, mais même dans les colocations, chacun a sa salle de bain, avec ses WC, sa douche, son lavabo. Tout est meublé, il y a toutes les couverts, les casseroles, les assiettes, les verres, les draps, les couettes. On rentre comme dans un hôtel un peu. Et donc, je me dis, là, il faut qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux. Et même des gens qui vont mal, qui ont eu des mauvaises histoires... avant et qui, parce qu'ils sont bien et quand ils rentrent chez eux, vont aller mieux. Si vous mettez des gens dans du beau, ils le respectent, ils s'en occupent mieux, ils le soignent. Alors que si vous les mettez dans un truc moche, ben, ils laissent se dégrader, devenir encore plus moche. Et en plus de ces 11 logements, l'ancien salon de l'hôtel particulier est devenu une cuisine. Ils ont chacun leur cuisine, mais une cuisine où ils peuvent ou se réunir ou recevoir leur famille quand elles viennent, ou faire des réunions entre eux. Et puis, quand on traverse la cour, il y a une grande et belle buanderie, où ils passent, que j'ai remarqué dans mon quartier, là, il y a plein de buanderies, et je vois que les gens se parlent pendant que leur linge tourne. Et là aussi, c'est aussi un lieu de rencontre, mais spontané, pas obligatoire. Mais qui arrive forcément, puisque tout le monde va laver son linge. Et dans l'immeuble contemporain, tout en haut, il y a une très belle et grande salle aussi où ils peuvent faire des fêtes. Alors ça, c'est plus pour les jeunes, ils font des fêtes sans que ça dérange les personnes plus âgées. Mais ça pouvait être une utopie. Est-ce que ça allait marcher? Ça, on n'était pas sûr. Ça a été long, on a eu toutes les emmerdes qu'on peut avoir sur un chantier, on les a eues, elles se sont concentrées là. Mais bon, on n'a pas lâché. Et maintenant que c'est fini, je me suis dit, bon, ben, où est-ce que je ne vais pas non plus mettre une annonce dans la Voix du Nord, parce que là, je vais avoir 2000 demandes. Et en fait, je suis passée par une association qui m'a envoyé des candidats. Et ça a commencé à être habité en octobre. Quand on rentre à gauche, il y a un appartement où il y a un monsieur qui est un peu désagréable parce qu'il a été très agressé dans sa vie, donc il est un peu parano, il reste enfermé chez lui. Mais maintenant, ça y est, il commence à sortir et à voir les autres. C'est vrai que c'est des gens qui ont eu des tas de problèmes, des tas de... Il y en a même qui ont été en prison, qui ont dormi dans la rue et qui, vraiment, il y a une résurrection quand ils sont là. Il y a un jeune étudiant... qui est venu d'Afrique, mais genre boat people, vous savez, traversant l'Algérie à pied, enfin, une histoire horrible, et qui maintenant est étudiant en électricité et sapeur-pompier. Ça y est, il a passé son diplôme de sapeur-pompier. Ensuite, il y a un monsieur qui était dans un logement où il était absolument exploité, c'est-à-dire que les gens le terrorisaient pour lui prendre tout ce qu'il avait comme pension pour le loyer qui était excessif pour l'endroit insalubre qu'il lui louait. Ensuite, il y a un couple d'homosexuels très bricoleurs qui font des tas de choses partout et qui eux viennent de prison. Ils étaient en prison, puis dans la rue, puis là. Donc pour eux, c'est merveilleux d'être dans cette... Et ils sont heureux que ça soit. Et tous disent, heureusement, c'est beau. Il y a quelqu'un qui... Il y a un garçon qui est là, qui est un peu... C'est pas autiste, mais il est un peu sauvage. Et j'avais fait un déjeuner un dimanche là-bas, en demandant à un de mes amis chefs, à Clément Marot, qui avait un restaurant avant, qui était à la retraite et qui est venu faire un repas là. Et lui ne voulait pas venir. Alors j'étais le voir plusieurs fois en disant, mais bon, vous voulez pas venir, d'accord, mais est-ce que vous êtes bien chez vous? Et puis tout à coup, j'ai vu qu'il faisait une drôle de tête. Je me dis, oh là là, un truc qui va pas. Et puis il me dit, mais vous savez, quand c'est si beau, il y a un temps d'adaptation. J'ai trouvé ça merveilleux. Donc je m'aperçois que vraiment, ça marche comme je le souhaitais. Il y a eu un temps d'adaptation, comme disait ce monsieur, mais il y a vraiment une entraide, une chose, et maintenant, ils se sentent chez eux. Il y en a un aussi qui m'a dit, mais moi, je continue à être angoissée parce que j'ai peur que ça s'arrête. J'ai peur qu'on me dise, bon, allez, maintenant, ça va, foutez le camp. Ben, j'ai dit non, pas vraiment, non. Alors, les étudiants, il y aura un renouvellement forcément, puisque ils ne vont pas rester habités là quand ils auront fini le cycle d'études qu'ils ont entamé. Je crois même que j'ai mis une limite de 3 ans pour les étudiants. Mais les autres personnes, elles sont là tant qu'elles ont envie d'être là. Hein. Mais j'ai pas fini, hein. Je suis même pas à la moitié du chemin. Parce que maintenant, il faut que je persuade d'autres gens de le faire, c'est un modèle. J'ai voulu être seule et sans subvention pour être libre. Mais une mairie ou la région, tout ça, on peut avoir des subventions et utiliser des bâtiments qui existent déjà, les aménager pour ça. C'est pas forcément des projets hors de prix chaque fois. L'État, il ne peut pas tout faire non plus. Donc je trouve que c'est bien et c'est même nécessaire que les privés qui peuvent le faire, le fassent. On est responsable. On est responsable de ce qui se passe dans notre pays. On est responsable du bonheur ou du malheur des gens. Mais il n'y a pas que l'État. Je veux dire, chacun de nous, dans la mesure de ses possibilités, devrait consacrer une partie de son temps, si elle n'a pas d'argent, ou de son argent, s'il en a, ou des deux, aux autres. Mais après, mes amis vont me détester parce que je vais tous aller les taper. Et justement, l'autre jour, j'ai une dame qui me dit « J'aimerais tellement vous aider, mais je peux vous donner que 20 euros. Mais en même temps, quand je donne, j'aime bien savoir exactement où ça va. Ben, » je dis 20 euros, ça peut être une bouteille de champagne pour fêter l'anniversaire de quelqu'un, ou pour, je veux dire, ça peut être concret. Je dis, ça peut aussi être des brioches pour tout le monde un dimanche, enfin... Ah, mais on peut faire des choses. Ben, j'ai dit oui. Du coup, elle m'a fait un chèque de 20 euros pour Villa Village. Je vous emmène sur la terrasse. Un escalier facile à monter, même avec des plats. Au départ, c'était le toit, et puis maintenant, c'est une terrasse. Je dirais même que c'est un jardin. Vous ne trouvez pas que ça fait plus jardin que terrasse? On a une vue à 360 degrés, dont une belle partie est cachée par un vilain bâtiment qui est l'Opéra de Paris. On voit le Panthéon, on voit Beaubourg, tiens, on le voit très bien aujourd'hui, vous voyez toutes les couleurs. Hein, là, vous avez des rosiers, plein de sortes de rosiers différents, mais qui tous ont un parfum extraordinaire. Vous voyez, sentir celui-là. C'est enivrant. Et donc là, c'est vraiment un jardin. Non, c'est la nature dans Paris. J'aime tellement mieux ça que la campagne.
As the change sets in, we are separate. As the game begins, we are separate. some strings slackening, others giving in, change sets in. Cycles of three triangles are tricky. Cycles of three triangles are tricky. Cycles of three triangles are tricky. As the change sets in, we are one again. As the game begins, we are one again. This is the natural order of things. Change sets in. Moonshine, moonshine, moonshine. Freeze, moonshine, moonshine, moonshine. Freeze, moonshine, moonshine, moonshine. Freeze, moonshine, moonshine, moonshine. Freeze. As the change sets in, we have lost our way. As the game begins, we are found again. As the change sets in, cycles of three, moonshine, 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 free. 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 Cycles of three, moonshine, 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 free.
C'était Anne Delabaume, héritière et bienfaitrice, un reportage de Rémi Dibowski, doit être réalisé par Émilie Vallat. Merci bien sûr à Anne Delabaume, l'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Mélissa Foust, et notre stagiaire, c'est Victor Candelat.
Again, this is the natural order of things. Change sets in.